Je vous demande de prendre vos copies de la Bible et trouver 1 Pierre chapitre 5. 2024 nos cœurs et nos pensées gardées par la paix de Dieu. Et vous savez, j'espère, d'où cela vient. Ça vient de nos versets de mémorisation, Philippiens chapitre 4. Où il dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées par Jésus-Christ. Donc, nous voulons avoir pas seulement des corps, mais des cœurs et des pensées gardées par la paix de Dieu en Jésus-Christ. Et il y avait déjà dans mon esprit trois grands passages dans la Bible, il y a certainement plus, qui parlent de cela. Un était en Philippiens chapitre 4, que nous avons vu pendant plusieurs semaines. Et ici, nous venons vers un deuxième passage dans la première lettre de Pierre, 1 Pierre et au chapitre 5. C'est un passage clé dans le Nouveau Testament concernant la paix de Dieu qui règne dans nos cœurs et nos pensées gardées par lui. Donc nous allons commencer tout simplement en lisant la parole de Dieu. Je vous invite à suivre à partir du verset 5. Où la Bible nous dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance, au siècle des siècles. Amen. Je veux tout de suite noter notre situation difficile dans ce message, qui va nous appeler, comme vous voyez ici, à jeter nos soucis sur celui qui se soucie de nous. Mais notez la situation difficile. Le contexte de cette lettre est celui de la souffrance. Et regardez dans vos Bibles juste un verset du chapitre 2, 3, 4 et 5. Regardez dans le chapitre 2, verset 19. 1 Pierre 2, 19. En effet, c'est une grâce de supporter des afflictions par égard pour Dieu. Quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des coups pour avoir commis des fautes? Mais si, lorsque vous faites le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Vous voyez le contexte de la souffrance? Trouvez le chapitre 3 et notez le verset 14. Même si vous souffrez pour la justice, vous êtes heureux. N'ayez donc de aucune crainte. Regardez le chapitre 4. Et les versets 12 et 13. Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris. Surpris de quoi? Eh bien, surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. Ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Et puis notez dans le chapitre 5 et verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, ces passages mettent en lumière l'idée que la souffrance fait partie de l'expérience chrétienne. Il ne faut pas être surpris par la souffrance. Ça, c'est le contexte général. Mais le contexte étroit de notre texte, là au chapitre 5, verset 5, notez cette phrase-là. vos rapports mutuels. Vous voyez ça? Il parle ici, dans le contexte étroit, de la pression qui peut être ressentie dans nos rapports mutuels, dans nos relations interpersonnelles. Encore verset 5, là au milieu. « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Alors pourquoi une telle déclaration au milieu de parler des souffrances qui viennent du dehors? Eh bien, il semble qu'on peut en déduire que ceux qui souffraient des épreuves ardentes, hein, c'est le langage du chapitre 4, et qui partageaient les souffrances de Christ, c'est encore le langage du chapitre 4, eh bien, ils sont tentés à transférer cette pression qui vient du dehors sur les autres qui sont autour d'eux. Et donc, même si l'autre n'est pas peut-être le point de pression initial, si nous sommes sous pression, la tentation est de nous retourner les uns contre les autres. Si vous avez vécu en famille, vous savez ce que c'est. Quand on est plus fatigué que normal, quand les pressions augmentent à l'extérieur, on a cette tentation, même si l'autre n'est pas la cause initiale, mais de transférer la pression qui nous vient de dehors vers nos relations interpersonnelles. Et donc, il leur parle de leur rapport mutuel. Nos plus grandes joies et nos plus grandes peines viennent de nos rapports mutuels. Donc ça, c'est le contexte. Mais, et là, je vais aller... Deuxième chose, mais je veux dire que pour beaucoup de personnes, la situation qui les entoure, le contexte, est considérée comme le problème capital, voire le seul problème. Pour beaucoup de gens dans le monde, si on leur dit quel est le problème, tout de suite ils vont vous dire c'est celui-là, c'est ça. C'est-à-dire ils pensent pouvoir identifier le problème. Et ils disent que ça, c'est ça qui est important. Mais Pierre, il reconnaît la souffrance... La pression même induite par les relations. Cependant, pour le chrétien, l'essentiel ne réside pas là. Ce n'est pas ça le facteur le plus important. Mes circonstances ne sont pas le facteur le plus important. Pour le chrétien, le plus important, c'est qui ? C'est Dieu. C'est Dieu. Et donc, avant d'examiner le commandement, prenons en compte le facteur principal qui le sous-tend. C'est notre Dieu immuable. Vous voyez ça à la fin du verset 5 ? Je saute le milieu pour arriver à la fin. Notez le mot « car ». Ce qui va dire va être construit sur une vérité. « Car » quoi ? « Car Dieu ». Vous voyez, c'est lui le facteur le plus important. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, dans mes relations difficiles, le premier facteur n'est pas l'autre. Le premier facteur est Dieu. Et comment il est ? Il y a donc une raison théologique. Dieu résiste à certains et il fait grâce à d'autres. Et les verbes « résister » et « faire grâce » sont au présent, c'est-à-dire c'est ce que Dieu fait toujours. Dieu ne peut pas changer, c'est comme ça qu'est Dieu. Ne pensez pas que vous serez l'exception. Oui, Dieu résiste aux orgueilleux, mais quelque part je suis l'exception parce que regarde ce qui m'arrive. Non, non, Dieu résiste aux orgueilleux. Et Pierre cite, comme Jacques d'ailleurs dans sa lettre, la traduction septante de Proverbes 3, verset 34, qui dit essentiellement la même chose. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais ailleurs, en Proverbe 6, verset 16, la Bible dit qu'il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Et qu'est-ce qui figure en premier sur la liste ? Les yeux hautains. Hein, ça, c'est une représentation visuelle de quoi? De l'orgueil. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, voilà ce que je hais. Il hait l'arrogance et l'orgueil. C'est difficile à accepter, mais il faut se rendre à l'évidence. Dieu déteste mon orgueil plus que les échecs de l'autre. On vit en communauté, on vit en famille. L'autre, il échoue encore. Et ça m'énerve. Et Dieu déteste mon orgueil plus que les échecs de l'autre. 2 Samuel 22, 28 dit « Tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard tu abaisses les orgueilleux. » En dépit donc de nos circonstances, mais à cause de qui est Dieu, nous recevons ce sobre commandement. Quel est donc notre devoir incontournable dans le texte? Quel est notre devoir? Verset 5. « Et tous... dans vos rapports mutuels, quoi? Revêtez-vous d'humilité. » Notez le début du verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Il s'agit de s'abaisser. Hein, on passe du substantif humilité, là au verset 5. Hein, revêtez-vous d'humilité. À l'adjectif, les humbles, à la fin du verset 5. Il fait grâce aux humbles. Et maintenant, au verbe, au verset 6, « humiliez-vous ». C'est la même famille des mots, hein, mais on le trouve dans tous les sens, l'humilité ici. Et l'humilité, c'est quelque chose qu'on peut se faire, on peut s'abaisser. Et cet abaissement dans le passage ici se déroule en trois phases. La première, c'est au début du verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Les jeunes doivent se soumettre aux anciens. C'est la phrase hein, du texte. Nous vivons dans une culture où l'on suppose que les plus âgés doivent se soumettre aux plus jeunes. C'est ça l'idée dans la culture. Nous adorons la jeunesse. Mais Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Et Pierre conseille aux jeunes de respecter l'autorité des anciens. Il est évident que lors des périodes de tension causées par des pressions externes, dans cette lettre on parle, les jeunes peuvent être enclins à proposer d'autres approches, d'autres solutions qui pourraient facilement créer des divisions et des conflits. Et donc le terme « soyez soumis » indique une volonté générale de soutenir les directives des anciens, sauf s'ils devaient inciter quelqu'un à pécher. Bien sûr, il y a toujours des garde-fous dans la parole. Mais après, le commandement est élargi. Hein, il passe rapidement à tous. Vous voyez ça au verset 5, au milieu? Et tous, c'est-à-dire tout le monde, que vous soyez jeune ou moins jeune. Dans vos rapports mutuels, quoi? Revêtez-vous d'humilité. C'est une très, très belle image ici. Revêtez-vous d'humilité. Nous devons tous nous efforcer de servir humblement les autres. Je vous lis la traduction parole vivante. Il dit « Quant à vous, les jeunes, soumettez-vous aux responsables de l'Église et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous du tablier d'esclaves. » Je veux dire, de l'humilité, soyez prêts à vous servir les uns les autres. Pourquoi il le dit comme ça, le tablier d'esclaves? Eh bien parce que ce verbe que nous voyons traduit « revêtez-vous », c'est un verbe très spécifique, c'est littéralement, ça veut dire « attacher quelque chose par un nœud » ou « lier quelque chose à soi-même ». C'est différent de mettre une robe ou des chaussures, c'est vraiment lié par un nœud quelque chose à son corps. Et le mot a signifié par la suite ce qu'on liait, c'est-à-dire un tablier de travail, par exemple. Et les esclaves portaient des tabliers par-dessus leurs vêtements pour les protéger de la saleté lorsqu'ils effectuaient des tâches. Et donc, avec le temps, ce mot est devenu synonyme d'un service humble. Il prend un tablier de service, c'est-à-dire, il va servir humblement. Et en nous exhortant à revêtir ce tablier, à servir les uns les autres, Pierre pensait probablement à qui ? Qui nous a donné cet exemple ? C'est Jésus lui-même, la nuit avant sa mort, en Jean 13. La Bible dit que Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Et ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds. Laver les pieds des disciples. Il n'y avait pas de tâche plus basse que cela. Il a essuyé avec le linge dont il était saint. Vous voyez, ce qu'il porte lui-même, il l'utilise pour laver les pieds des autres. C'est-à-dire qu'il va prendre la saleté de leurs pieds sur son tablier. Et nous sommes appelés à nous revêtir d'humilité les uns les autres. Et on le fait pratiquement quand on répond aux besoins des uns des autres sans considérer aucune tâche comme indigne de nous. Il y a un très beau passage à la fin d'Actes, après le naufrage, Paul est sur une île. Et juste avant d'être mordu par un serpent, vous savez ce qu'il faisait ? Que dit la Bible ? Il ramassait du bois. Il n'était pas là, assis. Je suis le prophète. J'ai froid. J'ai besoin d'un feu. Non, non. Il se mettait, il s'activait à ramasser du bois. Nous tous, qu'on soit pasteur ou autre, nous tous, nous devons nous servir les uns les autres dans les plus humbles de tâches. N'attendez pas que quelqu'un d'autre intervienne et fasse ce qui est sale ou difficile. Prenons-le, c'est un honneur. Mais notez que Pierre poursuit cette lancée et va étendre le commandement à l'ensemble de la vie. Hein. Donc il va dire, ok, vous les jeunes, ok, aux anciens, et puis tous dans vos rapports mutuels, ok, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et maintenant, il va élargir encore plus là au verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » C'est comme s'il disait, « Ok, pendant que nous y parlons, humiliez-vous aussi sous la main puissante de Dieu. » Nous devons tous nous humilier sous la puissante main de Dieu. Vous voyez les trois phases ici dans ce texte. Il s'agit de s'abaisser sous la main puissante de Dieu. Et Pierre sans doute pense à des passages dans l'Ancien Testament. C'était leur Bible à l'époque, hein? C'était l'Ancien Testament. Et Pierre utilise une expression qui était bien connue. On a parlé de la maison de Dieu. La main de Dieu aussi, c'est très courant dans l'Ancien Testament. Par exemple, en 1 Samuel chapitre 5, verset 11, ils envoyèrent chercher les chefs des Philistins et dirent « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël et qu'elle retourne à son lieu, c'est les Philistins qui parlent, afin qu'elle ne nous tue pas, nous et notre peuple, car il y avait une terreur de mort dans toute la ville. La main de Dieu s'y appesantissait très gravement. » Job aussi en parle. Il dit au verset chapitre 19, 31, « Ayez donc pitié de moi, ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a touché. » Vous voyez, la main de Dieu qui contrôle ces situations. Ecclésiaste, chapitre 9, dit, « Oui, j'ai tourné mon esprit à tout cela, j'ai examiné tout cela, les justes, les sages, et leurs actes sont tous dans la main de Dieu. » Pierre parle ici de la providence de Dieu. Ok, donc prenons cette idée, la providence de Dieu, la main qui contrôle nos circonstances. Et ce que Pierre est en train de nous dire, il ne nous dit pas seulement « humiliez-vous devant Dieu ». Ça, on peut le faire. Enfin, on pense pouvoir le faire. Mais il dit « il faut s'humilier sous la main puissante de Dieu ». C'est-à-dire, il faut reconnaître et accepter les circonstances providentielles qu'il orchestre dans ma vie. Je vais me soumettre sous sa main qui contrôle ma vie. Je vais accepter le contrôle, son contrôle de ma vie. Et le sens semble être le suivant. Donc, humiliez-vous face aux circonstances providentielles que Dieu met en place dans votre vie. Acceptez humblement les événements qu'il arrange dans vos vies. Humiliez-vous sous la direction de la providence de Dieu. Humiliez-vous sous sa main qui vous contrôle. Et ça exige un regard particulier sur Dieu, hein. C'est se placer sous son autorité. Et Jésus lui-même aussi est notre exemple là-dessus. Il s'est fait le serviteur de son Père. Et la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant quoi ? Obéissant jusqu'à la mort. C'était un acte d'humiliation sous la main de son Père. Et donc, dans le contraire, réfléchissez à cela. Refuser d'obéir est un signe de rébellion. C'est l'expression ultime de l'orgueil personnel. Le concept même de soumission. Écoutez ce mot français. C'est se placer où ? Ce n'est pas sur mission, hein, c'est se placer sous quelqu'un d'autre et la mission que nous donne l'autre. 1 Pierre 5, 6 nous appelle à nous humilier donc sous la puissante main de Dieu. Alors les jeunes, imaginez un enfant, il court à toute allure et puis brusquement il est stoppé par une main sur son épaule. Il regarde pour voir d'où vient la main. Dire que l'enfant s'est humilié devant la main de l'adulte implique son obéissance sans résistance. S'il essaie de s'échapper, c'est pas s'humilier sous la main de l'adulte. Donc, humilier, c'est ne pas s'obstiner face à sa main sur nous. Comme l'a fait, vous rappelez peut-être, de Balaam avec son âne. Il résiste. Quand la puissante main de Dieu est venue sur Saul, Jésus a dit, qui est devenu Paul par la suite, Jésus lui a dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Donc, s'humilier sous sa main signifie donc ne plus résister à son autorité. On peut penser aussi à Job, lorsqu'il s'est trouvé dans cette situation, sous la main de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, béni soit le nom de l'Éternel. Il s'humilie, il accepte même ce que Dieu lui donne. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Donc on a vu notre situation difficile, mais on a vu notre Dieu immuable qui ne change pas. On a vu notre devoir ici incontournable de s'humilier face aux autres et face à Dieu. Et notez quatrièmement notre objectif désirable. Il y a un objectif, on ne s'humilie pas juste pour rester tout le temps comme ça. Verset 6 nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin quoi ? Afin qu'il vous élève au temps convenable. Nous, même dans l'humiliation, nous vivons dans l'espérance qui nous élèvera. Le but de l'humilité est que Dieu vous élève au moment opportun. Et le plus grand exemple, on a déjà dit, c'est Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort, on ne peut pas aller plus bas. Et que dit le verset juste après ? C'est pourquoi Dieu l'a aussi, voilà, il va exalter, l'élever au plus haut, il va lui donner un nom qui est au-dessus de tout nom. En réponse à son humiliation, il a connu l'exaltation. Le terme humble, utilisé ici, mentionné environ 14 fois dans le Nouveau Testament, et souvent, c'est en lien avec cette idée d'exaltation. Matthieu 18, ou par exemple en Luc 18, où Jésus parle de deux hommes qui sont montés au temple pour prier. À la fin, il dit, « Je vous dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse, ce mot, sera élevé. » Et en 1 Pierre 5,10, il semble donc que l'accomplissement ultime et la glorification viendra un jour où nous serons avec Christ. Mais cependant, dans cette vie, ça signifie quand même que Dieu nous fera prospérer à certains moments et nous abaissera à d'autres. Même dans la vie, même face aux autres personnes, hein, dans nos rapports mutuels, au travail, ou dans le monde, il y aura des moments d'abaissement et des moments d'élèvement sous la main puissante de Dieu. Et nous devons accepter les deux. Comme Paul a dit, hein, j'ai appris à vivre dans l'abondance, mais aussi dans la disette. Et on doit pouvoir vivre dans l'exaltation, sans être orgueilleux, mais aussi dans l'humiliation. Mais quelle est la manière dont nous nous humilions? La manière. Et ça, c'est central ici au texte. Comment s'humilier sous la puissante main de Dieu. Comment le faire? On accepte ce qu'il nous donne, oui, mais la réponse est claire et directe dans le verset 7. Alors, je recommence au verset 6 pour voir le lien. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Est-ce que vous voyez le lien? Ce n'est pas très clair dans cette traduction, mais vous vous humiliez devant Dieu en lui confiant toutes vos inquiétudes. Le lien est plus clair dans d'autres traductions, comme dans Darby, il dit « jetant », A-N-T, parce que ça montre le lien. Hein, et ça montre aussi la force de ce mot, « déchargez-vous ». C'est en fait comme si on prenait un ballon et on le lançait de toute sa force. Donc il dit « humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, jetant, comment on le fait? En jetant sur lui tout votre souci. Jetant sur lui tout votre souci. Est-ce qu'on accepte cela, qu'on démontre l'humilité lorsqu'on jette nos soucis sur Dieu? C'est comme ça qu'on démontre notre humilité face à Dieu. Et le psalmiste, il exprime cette idée dans le psaume 55, verset 22, où on trouve ces deux termes, se décharger et Dieu qui s'occupe de nous. Il dit, remets ton sort, d'autres traductions disent, rejette ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Darby dit, rejette ton fardeau sur l'Éternel. Le prédicateur Spurgeon a dit, sa grâce, il parle de Dieu, sa grâce te confie ton sort. Non, j'ai mal lu. Sa sagesse te confie ton sort. Ta sagesse est de le lui confier. C'est-à-dire, non, c'est sa sagesse de te donner ton sort, mais c'est ta sagesse de rejeter ton sort de nouveau sur lui. Alors pourquoi c'est un marque d'humilité de faire cela? Eh bien parce qu'il y a quelque chose en nous qui pourrait s'interroger, si je ne m'occupe pas de moi-même, qui le fera? Ça c'est l'orgueil. Et vous rappelez de la parabole du semeur? Il y a un des endroits où la parole est étouffée par les soucis de ce siècle, de ce monde. De nombreuses personnes aujourd'hui, ils entendent la parole de Dieu, mais ils ne portent pas de fruits parce qu'elles sont préoccupées par le souci de ce monde. Et donc vous allez partir aujourd'hui, peut-être déjà, vous regardez l'heure, vous êtes déjà préoccupé par les soucis de ce monde. Et vous partez aujourd'hui, vous avez tous ces soucis, et la parole est partie, enlevée. Et ce n'est pas bien sûr les soucis qui posent problème. Hein. Il reconnaît que nous avons tous des souffrances, mais c'est plutôt notre réaction à ces problèmes. Et la tension est de la porter seule, ce fardeau. Et peut-être parce qu'on ne se considère même pas sous la main puissante de Dieu. On pense qu'on vit la vie tout seul, hein. On ne reconnaît pas la main de Dieu sur nos vies. Et nous pensons à nos difficultés d'une manière angoissante, sans nous placer sous la souveraineté de Dieu. Mais peut-être il y en a qui sommes conscients que ces problèmes relèvent du contrôle de Dieu, que c'est lui qui nous l'a fait, mais on est frustré par la manière, peut-être par son timing, ou le fait qu'il n'enlève pas, il ne nous élève pas tout de suite. Et l'anxiété est souvent liée à l'orgueil. Réfléchissez à cela. C'est un type d'orgueil, à l'inverse, l'anxiété. C'est refuser de confier nos soucis à Dieu. Et on essaye de les porter tout seul. Hein, vous avez un souci. Je ne sais pas, vous avez un manque d'argent. Vous manque 100 euros. Et quelqu'un vous vient, quelqu'un que vous aimez, qui vous a dit, écoute, j'ai 100 euros chez moi. Je vais te les donner, ce soir. Et dans la voiture, vous ne vous arrêtez pas. Ah, il faut 100 euros, ben, il faut 100 euros. Et votre ami vous dit, attends, t'as oublié, je t'ai dit que je te donnais à la maison. Ouais, tu m'as dit, mais moi je suis toujours inquiet parce que je ne les vois pas encore. Oui, mais je vais te le donner. Oh, continue. Vous voyez, la frustration de votre ami, il va finir par dire, mais tu me prends pour quoi? Et on fait ça avec Dieu. Toutes ces belles promesses qu'il nous a faites. Et on vient continuer à lui, oui, ceci et ceci. Sans lui confier nos soucis. Et finalement, la dernière chose que je veux relever, notez la motivation pour jeter nos soucis sur Dieu. Quelle est la motivation? Regardez-le vous-même dans la Bible. Déchargez-vous, jetant vos soucis sur lui. Car lui-même prend soin de vous. Vous voyez, ce n'est pas une menace ici. Oui, on devrait le faire. Dieu pourrait dire, attention, hein, tu ne me fais pas confiance, hein, attention. Mais ce n'est pas du tout ça. Il essaye de nous motiver par plus d'amour. Je prends soin de toi. Je me soucie de toi. Donc on rejette nos soucis sur celui qui se soucie de nous. En d'autres termes, on pourrait le traduire, car c'est à lui qui revient le souci ou le soin de chacun d'entre vous. Il y a le mot « tous » ici, vous tous. Si vous êtes en Christ, votre souci est un souci pour le Seigneur. C'est pas comme l'ami qui dit « c'est pas grave, je suis sûr que les choses iront mieux » et puis il fait rien. Non, non, c'est comme la personne qui dit « écoute, donne-moi le problème, je vais gérer, je vais parler avec la personne, je vais tout prendre, je vais prendre soin, tout. » Cette question s'est posée au cours du ministère de Christ à plusieurs reprises. Est-ce que le Seigneur se préoccupe réellement de nous? En Marc chapitre 4, Jésus est en train de dormir, il y a une tempête, et les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, écoutez ça, ne t'inquiètes-tu pas, c'est le même mot, de ce que nous périssons. » Marthe, plus tard en Luc 10, se sert du même mot. Marthe, occupée de divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, c'est traduit, cela ne te fait-il rien ? » Mais c'est le même mot. Tu ne te soucies pas que ma sœur me laisse seule ? La question sous-jacente est, est-ce que tu t'en fiches? Ne vois-tu pas le besoin que j'ai, Seigneur? Tu es aveugle, tu ne vois pas? Et la Bible vient pour nous dire, oui, je vois. Et oui, je m'en soucie. Ton fardeau est mon fardeau. Ton souci est mon souci. Comme il a dit à Saul, devenu Paul, pourquoi me persécutes-tu? C'est-à-dire, en persécutant le chrétien, les chrétiens, Jésus le sentait lui-même. Il sent les injustices. Il sent les difficultés de santé, le manque d'argent, les tensions relationnelles dans la famille. Il les ressent et il les connaît. Et il veut que vous sachiez qu'il s'en soucie. Chacun sait ce qui lui est le plus agréable, mais Dieu seul sait ce qui lui est le plus profitable. Et donc Jésus nous dit, jetez sur lui tous vos soucis. Prions. Père Céleste, nous te louons pour cette promesse que tu prends soin de nous. C'est une vraie assurance. Donne-nous la foi et, comme nous avons vu, surtout l'humilité de rejeter nos fardeaux sur toi. Il y a certainement dans les cœurs des uns et des autres des fardeaux spécifiques qui viennent même maintenant à l'esprit. Et nous voulons ensemble et individuellement prendre ces soucis et les rejeter sur toi. Te faire confiance que c'est toi qui régleras notre sort, car tu connais mieux que nous-mêmes ce qu'il nous faut. Mais tu ne délaisseras jamais aucun de tes enfants. Donne-nous cette confiance dans ton amour individuel pour nous. Et nous prions au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.